Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes jeudi le 12 avril, la veille du vendredi 13. Et vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine et je suis entouré de Marie Lalande.
Bonjour.
Et Monique Kerouac.
Bonjour.
Et nous avons Mathieu Tessier qui essaye de faire un peu de discipline dans notre groupe.
Oh boy.
On est mal pris.
N'est-ce pas?
Je suis mal pris.
Ça va alors, être un mesdames... long avant-midi.
Mesdames.
Mesdames à l'ordre.
De quoi allez-vous parler aujourd'hui?
Alors, comme c'est le mois d'avril et que c'est le mois de l'autisme, j'ai pensé pertinent de s'y intéresser. Alors, dans un premier article, un chercheur circonscrit ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme. C'est okay. Très bon pour... les muscles. Et dans un deuxième article qui est en une suite, en fait, c'est la réalité des filles, des femmes, au féminin, en fait, face à ce trouble-là.
Okay.
Et en complément, un petit article sur la prosodie du bonjour celui qui nous inspire confiance.
Ah bon?
Parce
okay.
Que, oui, on peut...
On laisse ça comme ça.
Oui.
OK, d'accord. J'ai plein de points d'interrogation. Marie.
Alors moi, je vous parle d'organisation scolaire. Parfois, les enfants ont de la difficulté à s'organiser. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Les enfants ont de la misère à s'organiser.
Ben
je peux vous
fait,
dire qu'adultes,
ça peut
des
être
fois...
des adultes aussi, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeune qui a un problème d'organisation scolaire?
Ouais.
Et dans un deuxième temps, quatre habiletés en lecture à développer chez les tout-petits.
Ah, voilà. Okay. Et de mon côté, c'est des articles sur la marche.
Ah, ça marche.
OK, je vais m'arrêter là. Oui, des articles sur la marche et des livres aussi qui pourraient vous accompagner à marcher.
Oh.
Alors, c'est le programme d'aujourd'hui. On lance ça. Allez, Mathieu. Alors, Marie,
oui.
Aide-nous à l'organisation scolaire.
Oui, alors,
on a besoin d'un bon départ. Allons-y.
Alors, le titre de l'article, c'est « Comment favoriser l'organisation scolaire chez un jeune ». C'est un texte d'Annie Lucier, publié sur le site parlonsapprentissage.com le 4 avril. Un bureau déborde. Un bureau qui déborde? Un sac à dos incomplet? L'oubli d'un travail à rendre ou d'une date d'examen, un livre entier à lire pour le lendemain.
Oh my God! J'espère qu'il n'y a pas 600 pages.
On le souhaite, oui.
Il me semble que je connais quelqu'un comme ça.
On connaît, oui. Certains élèves sont incapables, malgré les rappels, les conséquences et les menaces, de gérer le flot continu des demandes scolaires. Pour assurer une meilleure organisation scolaire, notamment chez un élève de 11 ans et plus, on suggère de revoir en tout premier lieu l'intérieur du sac d'école. Habituellement, les parents ont cru bon de délaisser cette vérification en croyant, à tort, que leur jeune est rendu à l'âge de développer son autonomie, donc de gérer seul son sac d'école. D'autres encore n'y ont tout simplement plus accès puisque leur adolescent s'oppose à l'inspection. La plupart du temps, le premier mois scolaire se déroule assez bien. C'est souvent durant les mois qui suivent que la situation se détériore. La désorganisation s'installe, puis s'aggrave. Une intervention guidée avec un pédagogue est alors nécessaire. Est-ce que le fait de faire cette intervention auprès de l'élève fait entorse à son cheminement vers l'autonomie? Au contraire, nous dit l'auteur de l'article. Prenons par exemple un élève ayant un TDAH, donc un trouble du développement de non, non. du déficit, un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Je suis désolée pour l'hésitation. Il est démontré que ce trouble est lié à une immaturité neurodéveloppementale. L'élève qui présente un TDAH a donc souvent besoin d'avoir un modèle à plus de reprises que les autres. Le modèle demande aussi d'être expliqué et détaillé, bref, de faire l'objet d'un enseignement explicite. Si on laisse l'élève faire seul la tâche, il y a de fortes chances qu'il la fasse gauchement. Lorsque l'intervenant regarde le contenu du sac d'école, il peut d'abord vérifier le coffre à crayons, cet objet que les élèves ont ainsi que les profs. Il n'y a que les profs et les élèves qui apprennent. Qui ont des coffres à crayons.
Moi, je vérifiais d'abord s'il restait des lunchs.
Oui, c'est déjà une première chose. Alors, on parle du coffre à crayons d'abord. Déjà, à cette étape, un ménage mérite souvent d'être fait. Crayons cassés ou mal taillés, stylos épuisés, marqueurs sans bouchon, effaces réduites en petits morceaux inutilisables, bouts de papier, correcteurs liquides en surabondance, etc. À cette étape, l'intervenant peut aider l'élève à alléger au maximum le coffre en y retirant les éléments superflus. Les élèves les plus désorganisés sont quelquefois les plus réfractaires. Ils s'opposent en affirmant qu'ils s'y retrouvent très bien, que c'est leur manière de fonctionner et que si l'on tente d'y remettre de l'ordre, ils seront encore plus désorganisés. Le pédagogue gagne alors à faire preuve d'humour et de respect envers le jeune, mais aussi à réexpliquer les raisons de l'intervention, à savoir les oublis, les pertes, les retards, etc. Une fois cette étape d'une dizaine de minutes franchie, on peut s'attaquer à l'intérieur du sac. Feuilles volantes, cahiers à anneaux qui débordent, vêtements, restes de dîner, voici où ça intervient. On en trouve des choses dans le sac d'école. Il est judicieux d'amorcer le tri des feuilles en termes de matière, de date, d'importance, etc. Certains élèves sont si confus qu'ils ne savent même pas reconnaître à quel cours se rattachent les feuilles volantes.
Oh mon Dieu!
Oui, un peu décourageant.
Ou à quelle année?
Oui, ils ont besoin d'aide pour tous les détails. Si nécessaire, on peut aussi donner un modèle pour montrer la manière de trouer les feuilles dans le bon sens. Moi, je l'ai déjà fait ça. On termine la séance en déterminant avec l'élève une date précise annotée à l'agenda où il devra remettre les feuilles triées, trouées, rassemblées et identifiées pour chaque matière dans les cahiers à anneaux respectifs. On l'invite également à se munir d'un porte-document en accordéon où il déposera dorénavant les feuilles qu'il n'aura pas eu le temps de classer afin d'éviter le plus possible de les retrouver chiffonnées dans le fond du sac d'école. Pour les séances qui suivront, une simple vérification rapide et constante pourra être faite en quelques minutes. La prise de notes peut être enseignée à partir de la tenue des notes de cours dans la matière la plus faible. Par exemple, placer les titres, bien centrer, faire les sous-titres soulignés, prendre des notes aérées, utiliser des symboles d'abréviation, etc. Parce que c'est assez curieux, mais on constate que ça, là, c'est pas enseigné ça dans les écoles.
Ouais.
Les élèves qui savent le faire le font spontanément ou qui ont des parents qui les soutiennent, mais il y a plein d'enfants qui savent pas faire ça.
C'est ça.
On peut par la suite élargir l'intervention en transposant cette façon de faire aux autres matières. On peut aussi accompagner l'élève dans la tenue adéquate de son agenda conventionnel ou agenda cellulaire en lui enseignant comment noter les matières et les devoirs, en lui expliquant d'encadrer toujours dans une même couleur les évaluations et d'indiquer leur pourcentage, d'indiquer ou d'inscrire les plages de récupération, de biffer ce qui est fait, etc. Avant que l'élève s'approprie cette démarche d'organisation, il faut souvent prévoir une année, voire deux, pour certains enfants. Surtout, il ne faut pas abandonner le suivi après quelques séances. Pour conclure, la rééducation d'un élève qui a des difficultés d'organisation peut être aussi exigeante que la rééducation de n'importe quel autre élève qui a un trouble. Aux yeux des parents, elle peut sembler plus abstraite car on n'enseigne pas une matière ou des connaissances proprement scolaires. On enseigne plutôt un savoir-faire scolaire. Lorsque les élèves sont en cours d'apprentissage, une telle intervention pédagogique peut s'avérer tout à fait indispensable. Elle ne corrige pas complètement les difficultés, mais elle conscientise l'élève sur son pouvoir d'apprenant et permet certainement une utilisation plus efficiente de ses capacités. Cette porte d'entrée peut le conduire vers une meilleure connaissance et maîtrise de soi. Sur la base d'une plus grande métacognition, c'est le mot qui désigne l'activité mentale sur ses propres processus mentaux. C'est la prise de conscience à propos de sa propre manière d'apprendre, la métacognition. Et ça, c'est déjà un grand pas. Voilà pour ce texte d'Annie Lucier, publié sur le texte « Parlons apprentissage.com.
Marie, je pense à plein d'adultes dans le monde du travail qui auraient besoin encore de ces interventions.
Si on les a pas éduqués, c'est pas inné.
Ouais. Alors moi, je vous amène complètement dans une autre direction.
Ça marche.
Et je veux vous inciter à marcher par un article qui s'appelle « Bouger ensemble ». Qui est écrit par le docteur Alain Vadeboncœur,
mm-hmm.
dans la revue L'Actualité du 9 mars 2018. Pour la majorité d'entre nous, la meilleure manière d'arriver à bouger un peu, c'est encore d'y être encouragé par le contexte social et le conditionnement en bas âge. Malgré les bienfaits solidement démontrés de l'exercice sur la santé, seulement un Canadien sur 5, 20%, se rend au bout des 150 minutes hebdomadaires d'activité recommandées. C'est tout de même paradoxal. Pourtant, la science ne laisse pas de place au doute. L'exercice régulier allonge notre vie et en améliore la qualité.
Mm-hmm.
Là, je pourrais arrêter ici, puis c'est fini. Après l'arrêt du tabagisme, c'est même la prévention la plus universelle et la plus efficace. Il ne faut pas se cacher la tête sous les coussins du sofa. La sédentarité, cet idéal trompeur venu mettre un baume sur le labeur excessif de nos ancêtres, est de toute évidence en train de gagner la partie avec les conséquences que l'on sait. Assez tôt dans la vie, nous nous engageons sur les chemins risqués de la sédentarisation, voire de la sédimentation, les adolescents étant de moins en moins nombreux à s'activer. Après, c'est la chute libre sur le canapé de la sédentarité qui ouvre la porte à l'obésité, au syndrome métabolique et au diabète de type 2, voire royale, vers les maladies cardiovasculaires et même les cancers. Bon appétit à tout le monde. Spécialité d'abord nord-américaine, la sédentarité s'exporte maintenant aussi facilement que le Big Mac, Star Wars ou Britney Spears, en misant notamment sur le refus d'affronter les puissants ennemis de l'exercice que sont la télévision, les réseaux sociaux, les cellulaires et tout ce travail accompli assis devant nos chers ordinateurs qui nous clouent à nos fauteuils. Il nous condamne ainsi à une vie assise, associée à des méfaits bien décrits par le physiothérapeute et vulgarisateur Denis Fortier. Retenez ce nom, ça va revenir ce matin. Dont le dernier livre que j'ai eu le plaisir de préfacer arbore un titre en forme d'injonction qui en résume fort pertinemment le propos « Lève-toi et marche ». Pourtant, aucun groupe ne range sa vie contre les vertus de l'exercice, ne dénonce le complot des centres d'entraînement ou ne vitupère contre les fabricants de ballons. En réalité, tout le monde reconnaît sans peine l'importance de l'exercice et l'absence de risque d'une pratique raisonnable. Ce n'est pas non plus une question de manque d'informations, celle-ci étant aisément accessible partout sur le web et dans les grands médias, ni de manque de recommandations puisque tous les organismes encouragent l'activité physique et proposent mille manières de l'intégrer dans notre mode de vie, parfois un peu timbré. La connaissance est donc visiblement insuffisante pour améliorer nos comportements en cette matière. Si nous acceptons aussi facilement notre immobilité, et je m'inclus dans le groupe, là je parle du docteur Vadeboncœur, mais ça pourrait être moi, étant quelque peu paresseux de nature, peut-être est-ce parce que nous manquons tout simplement d'imagination. Malgré ce qu'on dit sur cette faculté mentale dont nous sommes censés jouir plus que n'importe quel animal. Ce n'est pas un reproche, mais un constat. Il n'est pas évident de percevoir le lien entre l'exercice physique effectué aujourd'hui et notre état de santé dans 20, 30 ou même 40 ans. Là, je souris parce que je me dis, ouais, dans 40 ans, ça, je vais être très vieux. L'exercice nous apporte tout de même certaines récompenses à court terme, comme le sentiment de bien-être qui suit l'effort, bien connu des sportifs.
Oui,
n'est-ce pas, Marie?
C'est surtout cette partie qui m'attire,
oui.
Le sentiment après.
Mais c'est apparemment insatisfaisant pour la plupart des gens, peut-être parce qu'une petite souffrance précède inévitablement ce bonheur fragile et que personne n'aime avoir mal après tout. Une réalité d'autant plus exigeante pour qui souffre de limitations affectant la mobilité ou qui résiste génétiquement aux bienfaits de l'exercice. Ça existe pour vrai. Comme d'autres ne répondent pas à certains médicaments. Il demeure que pour la majorité d'entre nous, la meilleure manière d'arriver à bouger un peu, c'est encore d'y être encouragé par le contexte social et le conditionnement en bas âge. D'où l'importance de l'éducation, des équipes sportives formées de compagnons d'école ou de travail, et surtout d'un environnement urbain favorable, où les lieux propices à l'exercice sont accessibles et où le transport actif, marche, vélo, autobus et métro, est davantage encouragé. Il s'agit bien là d'une véritable culture de l'exercice, si on veut nommer la chose. L'individu n'y arrivant pas aisément, il faut manifester notre volonté collective d'investir dans cette culture de l'exercice si on veut être assuré d'en cueillir plus tard les fruits. Je rappelle que chaque dollar investi en prévention en rapporte 7 à long terme, mais ce long terme se chiffre en décennies, soit bien plus qu'un mandat électoral, ce qui explique sans doute une part de la frilosité de nos dirigeants. Pourtant, il faudra bien finir par y penser plus sérieusement si on veut renverser les tendances actuelles. On commence quand à bouger ensemble?
Je ne serai plus seule alors à monter les 5 étages.
Oui, j'ai tellement pensé à toi quand j'ai lu cette affaire-là. Alors, c'était l'article « Bouger ensemble » ou « Monter l'escalier ensemble » du docteur Alain Vadeboncœur dans l'actualité du 9 mars.
Ton soleil s'élevait sur un horizon lourd, dans la furie des feux qui brûlent l'innocence, mais dans le bruit tonnant qui voile les contours, tu as poussé ton chant par-dessus les silences. L'écho en retour ne t'a donné que des cendres et a chuchoté au dessein de tes méandres d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, te lâchera pas. Tout ce que t'as compris, c'est qu'il fallait partir, que si tu restais là, il ferait plus jamais beau. La vie a couché sur le ciel tous tes désirs, t'as traversé la mort sur un sombre radeau. La mer a pris tes rêves et la nuit ton espoir. Ce qu'il te reste ici, c'est la liberté noire d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. Mais tes fantômes toujours te ramènent au combat. Ici, dans la lumière, t'as souvent les yeux sourds. Avoir ta vie dans le vieux rêve d'être chez toi. Le sol brisé de tes racines casse la route. Et à chaque heure, tu mesures ce que ça coûte d'aller ton chemin. Tu peux. Par où tu vas? Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, te lâchera pas. tu peux marcher. Par où tu vas? Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, guide ton pas.
La chanson « Tu peux marcher » est tirée du plus récent album de David de Portelance.
Mathieu, tu sais qu'à toutes les semaines, on a hâte de savoir c'est quoi la chanson que tu vas trouver qui correspond à nos articles.
Moi, j'ai hâte de voir ça va être laquelle. Oups,
alors,
c'est pas nécessaire, Mathieu, c'est correct.
Alors, Monique, j'ai une question pour toi.
Oui?
Qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme? Ah non, c'est le titre de ton article.
Oui, mais c'est correct. Écoute, c'est un article qui a été publié il y a quelques années. Là, c'est le 1er décembre 2014 qui a été rédigé par Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM. Mais j'ai trouvé intéressant qu'on nous amène justement dans UdeM Nouvelles à ce lien-là pour que l'on puisse saisir un peu ce qu'est ce trouble.
Parce qu'on pense qu'on le sait un peu.
Oui, on pense qu'on le sait, puis on pense que c'est peut-être une maladie, mais bon. Touchant 1 % de la population, le trouble du spectre de l'autisme, on dit souvent TSA, regroupe un ensemble de différences dans le traitement de l'information sociale et non sociale, et particulièrement la perception. Il se manifeste en bas âge, généralement entre 18 mois et 3 ans, et d'abord par des interactions sociales atypiques avec l'entourage. Parce qu'il n'a ni début ni fin, l'autisme n'est pas une maladie. Il s'agit plutôt d'une variation neurodéveloppementale qui est caractérisée par divers comportements sociaux et non sociaux, nous explique le neuroscientifique en cognition Laurent Motron, qui est entre autres le directeur du Centre d'excellence en troubles envahissants du développement de l'Université de Montréal. L'origine du TSA n'est pas claire, mais on sait que des facteurs génétiques et environnementaux sont en jeu. Par ailleurs, l'éducation ou le comportement des parents à l'égard de l'enfant ne sont pas responsables de l'autisme. Pour recevoir un diagnostic de TSA, l'enfant doit présenter différents symptômes au chapitre des habiletés sociales et du comportement. Alors voici quelques exemples non exhaustifs. Sur le plan des habiletés sociales, absence de réponse, réception peu ou pas apparente des paroles ou signaux émis par les autres, comme ne pas sourire ou ne pas répondre lorsqu'on l'appelle par son prénom. Réduction des ouvertures sociales, ainsi il ne demande rien aux adultes ou ne les regarde pas spontanément. Problème de langage, il parle de façon non communicative ou ne parle pas du tout. Absence d'imagination. Un autiste peut accomplir des choses complexes, par exemple résoudre des sudokus même en bas âge, mais il ne peut jouer à faire semblant, comme prendre une fourchette pour un téléphone ou jouer un rôle. Donc ça, c'était pour les habiletés sociales. Sur le plan des comportements, tendance à effectuer des mouvements répétitifs, se bercer, battre des mains, quand il ressent des émotions joyeuses. Dépendance excessive à des routines ou à des rituels particuliers. Fascination pour certains objets ou sujets. Les autistes s'intéressent à moins de choses, mais plus longtemps. L'intensité de ces symptômes varie grandement selon les individus. Certains peuvent, à l'âge adulte, fonctionner de façon normale dans la société, tandis que d'autres requièrent une supervision 24 heures sur 24 durant toute leur vie.
Et c'est pour ça que ça s'appelle un spectre.
Oui, c'est voilà. Ça. C'est pas ciblé. C'est tout à fait juste, Marie. D'une part, il y a hétérogénéité fondamentale en ce qui a trait à l'acquisition du langage qui peut être précoce ou au contraire tardive, indique M. Motron. À l'âge adulte, il y a toutefois peu de différence de langage entre ceux qui ont commencé à parler plus tôt et ceux qui ont commencé à parler tard. D'autre part, il y a une distinction entre l'autisme primaire, où seul l'autisme est présent, et l'autisme syndromatique, où il y a présence d'un syndrome neurogénétique reconnaissable en plus de l'autisme. Il y a des variations considérables de niveau intellectuel dans l'autisme. Environ 25 % des autistes sont aussi atteints d'une déficience intellectuelle. Les enfants autistes filtrent un certain type d'information pour laquelle ils sont hyper vigilants. Il est faux de dire qu'ils ne s'intéressent à rien, dit M. Motron. Au contraire, ils sont très à l'écoute de ce qui se passe, mais dans un domaine particulier et étroit par rapport aux enfants non autistes. Et si les expressions faciales se font rares, cela ne signifie aucunement que l'enfant est absent. On ne dit pas d'une personne sourde qu'elle est absente parce qu'elle n'entend pas notre voix, illustre M. Motron. Chez l'autiste, le canal d'information n'est simplement pas le même que chez un autre enfant et le défi consiste à trouver ce canal. Ainsi, la métaphore selon laquelle un autiste est une personne qui vit dans sa bulle est une fausse métaphore, insiste le chercheur qui, à bon an, mal an, effectue 250 évaluations d'enfants autistes. Mais ça, c'était en 2014. Ça s'est probablement multiplié aujourd'hui. Il y a environ 120 000 personnes autistes au Québec, dont un peu moins de 30 000 à Montréal seulement. Selon M. Motron, le spectre de l'autisme est un trouble essentiellement génétique, bien qu'on n'en connaisse pas le mode ni le mécanisme spécifique de transmission. On sait que c'est génétique en raison des concordances familiales. Par ailleurs, il y a environ 10 fois plus de garçons que de filles qui sont diagnostiqués autistes, ce qui indique qu'être une femme pourrait peut-être le protéger contre l'autisme. Et ce trouble s'étend à toutes les parties du cerveau, tant pour ce qui est de la taille des cellules que de l'organisation ou de la fonction des régions cérébrales. Avec l'autisme, le problème n'est pas de trouver les différences cérébrales, il y en a énormément, mais de savoir lesquelles sont significatives sur le plan du fonctionnement de l'individu. Mmh. Alors, c'était donc un article de Martin Lassalle du 1er décembre 2014.
Vraiment intéressant.
Oui. Oui. Oui, tout à fait. Marie.
Alors, qu'est-ce que c'est un adulte selon Violette, 4 ans? C'est l'âge qu'on a quand on a les pieds très loin dans le lit.
Oh!
Et selon Maëlle, 6 ans, c'est juste des enfants qui ont grandi.
Oh, oh mon Dieu! Alors, moi, j'ai un petit mythe. Est-ce que la forme, c'est inné? La génétique possède une part importante dans la performance sportive. Elle déterminera vos aptitudes dans un sport plutôt qu'un autre, mais ne touche pas du tout à votre forme physique. Alors, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de la marche. En deuxième, en première partie, on a fait de la marche, de l'organisation de l'autisme. En deuxième partie, on va faire de l'autisme, de la marche.
Et du bonjour.
Et de la lecture. Oh, du bonjour et de la lecture. Alors, revenez-nous après la pause.
J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Vous trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Votre ami, pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Là-bas, paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
Émile Proulx-Cloutier, L'enfant scaphandre de son album Marée haute.
Quelle belle façon de faire suite à l'article de Monique sur l'autisme et qui nous amène sur une suite.
Oui, sur une suite, parce que j'ai dit que avril était le mois de l'autisme, mais la journée de l'autisme était le 2 avril. Alors, le thème de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui se tenait le 2 avril à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, portait sur l'autonomisation des femmes et des filles autistes et sur leur participation au processus de prise de décision. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que
25 %
qu'il y avait une fille par rapport à 10 garçons.
Ah,
qui... Oui, c'est ça. Alors, c'est dans cet esprit-là que, je pense, la journée a été destinée. À cette occasion, Fabienne Casalis, neuroscientifique au CNRS à l'École des hautes études en sciences sociales, c'est en France, et Adeline Lacroix, étudiante en master de psychologie, souligne sur le site The Conversation que la question du sous-diagnostic chez les femmes mérite d'être posée. Les études, rapportent-elles, font état d'une femme pour 9 hommes, bon, ça a changé par rapport à 2014, on le voit, ayant un diagnostic d'autisme dit de haut niveau. Ça, c'est le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle. Si l'on compare au ratio d'une femme pour 4 hommes observés dans l'autisme dit de bas niveau, où elles sont mieux repérées, on peut penser que beaucoup manquent à l'appel. Historiquement, expliquent les chercheurs, l'autisme a d'abord été considéré comme une condition ne touchant qu'exceptionnellement le sexe féminin. C'est sur une population de garçons que se sont construits les critères de diagnostic et les recherches ont principalement été menées avec des groupes de garçons, réduisant ainsi les chances de reconnaître les manifestations autistes féminines. Ce n'est que depuis quelques années que la communauté scientifique s'est vraiment emparée de ce sujet, rapporte-t-elle. Par exemple, une étude intitulée « L'autisme au féminin » est menée par l'équipe de Laurent Motron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, du département de psychiatrie de l'Université de Montréal, en collaboration avec l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Le recrutement de volontaires a démarré au début de cette année. D'autres recherches, cite-t-elle, tentent d'adapter les outils au diagnostic féminin. Alors, vous pouvez toujours aller sur le site de The Conversation pour voir, il y a des liens sur même des tests que l'on peut passer en ligne. C'était donc un article qui était présenté sur le site Psychomédia du 31 mars 2018.
Donc, si je comprends bien, on pense qu'il y a plus d'autisme chez les hommes, mais c'est parce que les outils ont été bâtis pour reconnaître ça chez les hommes.
Oui, tout à fait.
Alors, faut attendre d'autres résultats pour vraiment connaître une image précise.
Plus précise, oui.
Et Et Monique, tu nous amènes complètement dans une autre direction.
Bien, complètement, mais pas tout à fait. Vous allez voir par la conclusion.
Okay.
Alors, le parfait bonjour, digne de confiance. Voilà le titre de l'article d'Alain Labelle qui a été publié le 27 mars 2018 sur le site d'Info Radio-Canada. Une expérience mise au point par des scientifiques français permet de décrypter le code social véhiculé par la prosodie, cette mélodie appliquée à un mot lors de sa prononciation.
Ah, okay.
Elle a ainsi permis de créer le parfait bonjour sincère. Le cerveau humain possède la capacité de décoder rapidement l'intention dans les mots prononcés par un inconnu. Son intonation révèle-t-elle une personne digne de confiance ou amicale, une personne dominante ou hostile? Selon des chercheurs de l'Institut de recherche et coordination acoustique musique IRCAM à Paris en France, l'humain se fait des représentations mentales de la personnalité de quelqu'un à partir des paramètres acoustiques de sa voix, un peu comme il se fait une image mentale d'une pomme, ronde, verte ou rouge, avec une queue, etc. Le chercheur Jean-Julien Haut-Couturier et ses collègues sont parvenus à visualiser ces représentations mentales et à les comparer entre individus à l'aide de CLESE, C-L-E-E-E-S-E, un logiciel qui permet de manipuler informatiquement la voix. À partir de l'enregistrement d'un seul bonjour lancé par une voix humaine, l'équipe française a généré aléatoirement pas moins de 70 000 prononciations du mot ayant toute une mélodie différente, les amis, tout en gardant un ton réaliste.
Okay.
Des participants ont ensuite été invités à choisir entre deux bonjours, A ou B, hein, jaune ou vert, en tout cas, okay. Celui qui leur semblait le plus digne de confiance. En analysant leurs réponses à ces enregistrements manipulés, les auteurs de l'étude ont pu caractériser expérimentalement l'intonation du « bonjour sincère, digne de confiance ». Alors, à quoi ressemble-t-il?
Est-ce qu'on va l'entendre?
Ben non, c'est trop long, ça.
Ah, okay.
La voix marque peu le B, hein, s'élève sur « on joue » et « mange le R okay. ». Alors, ça fait comme un petit « bonjour ». Ces travaux ont permis à l'équipe française de visualiser le code utilisé par les gens pour juger de la voix d'autrui et ont montré que ce code est partagé par les hommes comme par les femmes et est indépendant du genre, masculin ou féminin ou autre, de la voix écoutée. C'est moi qui ai ajouté le autre. Les auteurs de ces travaux publiés dans la revue PNAS pensent que leur technique s'applique à un grand nombre de questions dans le champ de la perception du langage. Ils voudraient maintenant mener des travaux similaires sur une phrase entière ou vérifier si les représentations mentales dépendent de la langue parlée. Monsieur Haut-Couturier espère que cet outil permettra d'améliorer la compréhension d'éventuels troubles de la prosodie, l'inflexion, le ton, la modulation, et d'aider à la réduction de la parole, la rééducation, pardon, de la parole, la réduction pour certains, et à l'écoute de personnes victimes d'un AVC. En effet, certaines d'entre elles ont de la difficulté à distinguer une question d'une affirmation ou l'état émotif d'un interlocuteur, ce qui devient un handicap à la socialisation.
Voilà
le lien. Attendez, en conclusion, la méthode pourrait aussi servir à identifier la représentation des émotions, notamment auprès de personnes souffrant d'autisme.
Voilà. Oh là là.
Ah.
La question qui me vient.
Oui.
Les bonjours qui ont été répertoriés comme étant fiables sont français, parce que l'étude est française.
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que c'est les mêmes bonjours au Québec?
Bonne question.
Bonjour. Ouais.
Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment l'intonation qui fait la différence.
Oui.
Tu sais, je suis certaine que si on dit « bonjour », ben, ça sera pas, on sent pas l'amabilité.
Parfait.
C'était donc un ton.
Un
texte d'Alain Labelle, publié le 27 mars 2018 sur le site Info Radio-Canada.
Alors, moi, je vous ramène à la marche avec deux articles qui ont paru dans la presse la semaine dernière, le 4 avril. Et le premier, ça s'intitule « Comment marcher? »
Ah bon? Parce qu'on le sait pas?
Probablement pas. De Marie Tison, qui était dans la presse du 4 avril, pour l'auteur Jean-Yves Cloutier. Il n'y a rien de pire qu'une personne bien motivée qui commence à marcher quotidiennement et qui abandonne après 2 semaines parce qu'elle se décourage ou parce que ses genoux la font souffrir. Mm-hmm. Nous voulons donner un cadre aux gens, déclare-t-il en entrevue. Nous voulons que les gens soient motivés longtemps en évitant les erreurs. On ne savait pas qu'il pouvait avoir des erreurs en marchant. Il y a quelques années, M. Cloutier a écrit « Courir au bon rythme », une référence dans le domaine de la course à pied avec des programmes d'entraînement visant tous les types de coureurs. Avec Lynn Jolicoeur, qui a parcouru le chemin de Compostelle à 4 reprises, il a décidé de répéter l'exercice pour les marcheurs. En faisant des recherches, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de programme d'entraînement pour la marche, indique M. Cloutier. La plupart des gens qui se préparent pour le Kilimandjaro ou pour Compostelle improvisent leur entraînement. Les programmes d'entraînement constituent donc le cœur de marcher au bon rythme, c'est le titre du livre. Les gens ne sont pas obligés de les suivre à la lettre, précise M. Cloutier, mais ils peuvent s'y référer et se dire « OK, je ne suis pas dans le champ ». Les auteurs ont créé 3 programmes qui se déclinent chacun en 4 niveaux de façon à rejoindre à peu près tout le monde. On trouve ainsi un programme de mise en forme, un programme de préparation à la longue randonnée et un programme d'entraînement avec intervalles. Les auteurs consacrent quelques pages aux bienfaits de la marche pour la santé. Ils suggèrent également quelques trucs pour garder sa motivation, à commencer par les podomètres, les bracelets et applications qui permettent de compter ses pas. C'est une belle source de motivation pour les gens. Des gens vont faire des détours pour atteindre leur objectif, que ce soit 10 000 pas par jour ou 8 000 ou 7 500. Les auteurs consacrent finalement plusieurs chapitres à ce qu'ils appellent leur boîte à outils. Des conseils sur les vêtements à porter, les chaussures, le sac à dos et les bâtons. Ils offrent également des suggestions de collation et non pas de collaboration à apporter et donnent finalement des recommandations spécifiques au sujet de la marche par temps froid, par temps chaud et par grand vent. Les auteurs se veulent pratico-pratiques. Pas question de stigmatiser les gens sédentaires. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens qu'ils auront des problèmes de santé s'ils ne marchent pas. Nous voulons simplement donner des façons de les stimuler pour sortir de la maison. Pas question non plus de compliquer les choses avec des idées scientifiques et des mots à 100 piastres. Il s'agit de vulgariser la matière pour que les gens améliorent leur mode de vie. Alors, ce livre s'appelle « Marcher au bon rythme » de Jean-Yves Cloutier et Lynn Jolicoeur. C'est aux éditions La Presse. Et ça a 190 pages. Et je vous amène ensuite au carnet d'endorphine de Geneviève Lefebvre.
Ça nous étonne.
Et le titre, c'est « Les bienfaits de la marche ». Alors, elle nous dit « Il y a quelques semaines, j'ai profité du fait que j'étais invitée au Salon du livre de l'Outaouais pour rendre visite à mon amie Virginie. Virginie, c'est ma meilleure partenaire de défis sportifs qui n'ont pas d'allure. » Ceux expressément conçus pour les plus fous que la moyenne. Dans le livre des folies que j'ai fait dans ma vie, il y a presque toujours la signature de ma complice d'aventure. Or, mon amie plus folle que la moyenne va avoir un bébé, ce qui est un autre genre de folie. Mmh. On s'est donc calmé le pompon sur le saut en bungee et le surf extrême en Antarctique et on est allé marcher dans les sentiers du magnifique parc de la Gatineau. Marcher. Cet acte révolutionnaire qui consiste à mettre un pied devant l'autre. Un geste qu'on tient pour acquis tant il nous semble naturel et dont on ne mesure l'importance qu'à la seconde où on perd le pouvoir de l'exercer. Au même moment, voyez comme la vie est bien faite, mon ami Denis Fortier, physiothérapeute extraordinaire.
C'est là dont on parlait tantôt.
C'est là le lien. Mm-hmm. Il y a des liens partout aujourd'hui.
Ah, vraiment, on est tout géniaux aujourd'hui.
Physiothérapeute extraordinaire et pédagogue de catégorie olympique mettait au monde un petit livre tout à fait remarquable qui s'intitule « Lève-toi et marche ». Un autre genre de bébé. Le genre qui parle déjà à la naissance et qui nous chante la pomme d'une couverture à l'autre pour nous encourager à mettre un pied devant l'autre aussi souvent et joyeusement que possible. Ce livre orange qui prouve en 176 pages que le remède miracle existe et qu'il est gratuit est une merveille de recherche scientifique accessible, de trucs simples et d'encouragement bienveillant et, miracle, pas une miette de culpabilisation à l'horizon. Au contraire, c'est une invitation au voyage, à la découverte, au mieux-être. Dans le chapitre sur la motivation, j'ai lu des trucs dont on ne parle jamais ailleurs. Par exemple, que le fait de bouger nous permet de combler nos besoins d'épanouissement en affirmant notre autonomie. Quand on marche, on est libre. Que l'activité physique est une occasion de s'accomplir. Être à l'affût de nos réussites, ça fait du bien, tout en nous permettant de tisser des liens sociaux et de se faire des amis pour la vie. Préfacé par le docteur Alain Vadeboncœur.
Voici la boucle qui se...
La boucle est bouclée. Qui avoue avoir bondi de son divan à la fin de cette lecture stimulante, le petit bouquin orange qui fait du bien réussit le tour de force de ne rien nous cacher des multiples méfaits de la sédentarité tout en nous donnant les outils pour en triompher et la confiance en nos capacités de battre le record de Mao dans sa grande marche jusqu'à l'épicerie, l'école ou le café du coin. Et comme Denis Fortier confirme que la marche est une excellente activité physique pour les femmes enceintes, j'ai bien l'impression que Virginie et moi, nous pourrons planifier notre prochain défi pas d'allure en marchant. De toute façon, la plus grande des folies, ce serait de rester assis. Alors, c'était l'article « Les bienfaits de la marche » de Geneviève Lefebvre, le 4 avril, et c'était précédé par « Comment marcher » de Marie Tison, toujours dans la presse du 4 avril.
Alors, on parle de lecture.
Ben oui, là, on a fait des liens avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce que toi, tu vas pouvoir en faire?
Je l'espère.
T'as un défi.
Alors, je vous parle de lecture.
De lecture organisée, Marie.
Voilà. Tout à fait.
On
organise l'avenir ici. 4 habiletés à développer avec votre enfant ou votre tout-petit. C'est un texte de Marie-Ève B. Godin, qui est orthophoniste et qui a été publié sur le site naître-et-grandir.com le 6 avril. L'année dernière, Jules, 7 ans, commençait à lire les indices de la chasse au coco de Pâques. Cette année, il a tout lu avec brio. En une seule année, il est devenu un lecteur qui se débrouille assez bien. Comme les enfants de plusieurs d'entre vous, assurément. Ça vous impressionne, vous? Moi, oui. En fait, moi, personnellement, oui, et l'auteur aussi. Quand les enfants commencent à lire, on peut facilement penser qu'ils ont appris un peu comme par magie. Comme si la vraie école et les devoirs transformaient leur petit cerveau. Pourtant, c'est grâce à de nombreuses habiletés qu'ils ont développées plus tôt qu'ils en arrivent là. Ces habiletés sont d'ailleurs faciles à encourager au quotidien à partir de 3 ans environ. Et moi, je dirais avant ça, si on peut. La première habileté, c'est de connaître du vocabulaire. Lire, ce n'est pas seulement décoder des mots, c'est aussi les comprendre. Plus votre enfant connaît de mots à l'oral, plus il en comprendra aussi à l'écrit. Une astuce, n'hésitez pas à exposer votre enfant à des mots nouveaux et plus complexes, notamment à travers les livres. Il ne comprend pas, on explique et il apprend. Deuxième habileté, faire des liens entre les mots. En français, plusieurs mots se ressemblent et sont liés par le sens. Par exemple, il y a un lien entre le mot « souffle » et le mot « essouffler ». Connaître les liens aide à comprendre les mots. Plus tard, cela permet aussi d'en deviner l'orthographe plus facilement. Par exemple, s'il y a 2 F dans « souffle », on peut supposer qu'il y en aura 2 dans « essouffler ». Et en général. Donc, astuce.
En fait,
l'idée, c'est d'essayer de dégager des généralités plutôt que de cibler sur l'exception. L'astuce, donc, là, lorsque votre enfant a de la difficulté à comprendre certains mots, vous pouvez vous appuyer sur un mot plus simple de la même famille pour lui expliquer sa signification. Par exemple, s'il se demande ce que signifie « maisonnette », vous pouvez lui dire que c'est une maison, mais plus petite. Donc, puis il y a tout un travail à faire sur les préfixes, les suffixes, pour faire comprendre, encore une fois, toutes ces généralités. Troisième habileté, comprendre entre les lignes. Mettez « entre les lignes », entre guillemets. Dans le langage oral, comme dans le langage écrit, tout n'est pas dit mot pour mot. Par exemple, si j'entends ou que je lis « La petite fille constate que son vélo est brisé », je peux déduire que la petite fille est triste ou déçue, même si ce n'est pas indiqué. Être capable de comprendre entre les lignes, à l'oral, aide à le faire plus tard en lecture. Une astuce, posez des questions à votre enfant afin qu'il pousse ses réflexions sur des contextes du quotidien ou tirer des livres. Vous pouvez demander « Comment se sent la personne, mm-hmm. tu crois? » ou bien « Qu'est-ce qui va se passer, penses-tu? » Alors, voilà pour cette troisième habileté. La quatrième maintenant, savoir jouer avec les sons. Les premiers pas en lecture et en écriture exigent d'associer une lettre à un son. Par exemple, une lettre, c'est trois choses. C'est le nom de cette lettre, par exemple la lettre S, la graphie de mm-hmm. cette lettre, donc comment on l'écrit, et ensuite le son de cette lettre. Ça sonne mm-hmm. S, par exemple. Mm-hmm. Pour pouvoir y arriver, il faut d'abord et avant tout bien percevoir les sons dans les mots. Une astuce, lorsque par hasard vous remarquez qu'une phrase inclut plusieurs fois le même son, profitez-en pour mettre ce son en évidence. Par exemple, si vous dites, et je ne sais pas pourquoi vous pourriez dire ça, mais mettons que vous mm-hmm. dites, tu cherches ton renard rouge.
Oh, Polaï!
Mettons que c'est un toutou.
Peut-être qu'on cherche un coyote.
Peut-être, oui. Dans les temps qui courent, on cherche un coyote. Mais mettons dans l'exemple que ça marche. Coyote, ça marche tu cherches ton renard rouge. Vous pourriez ajouter, tiens, renard rouge. Entends-tu le son R qui roule? D'autres habiletés préparent aussi votre enfant à lire, mais celles qu'on vient d'énumérer sont importantes et peuvent facilement être encouragées au quotidien. Il s'agit simplement de développer certains réflexes simples. En plus, en parlant langage avec votre enfant dans un contexte agréable, vous risquez de le rendre plus motivé à parler, puis à lire et à écrire plus tard. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de liens, mais c'était quand même intéressant en ce
oui,
qui concerne.
Oui, tu as fait des liens entre oui. les lettres et les sons.
Oui,
il y a quand même une organisation.
Il y a quand même une organisation. Oui. Et bravo, merci pour ce texte de Marie-Ève Bégodet, orthophoniste, publié sur le site naître-et-grandir.com le 6 avril dernier.
Alors, on est rendu au moment des brèves, mesdames, et on commence par Monique.
Oui, alors, les premiers Américains sont passés par le détroit de Béring.
Ben oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas, hein? Un nourrisson préhistorique découvert en 2013 sur le site archéologique d'Upward Sun River en Alaska, aux États-Unis, a révélé d'étonnants secrets à l'équipe de l'Université de l'Alaska à Fairbanks, qui a étudié son ADN. Grâce à lui, les scientifiques ont validé un scénario depuis longtemps débattu. Les Homo sapiens ont bien emprunté le passage qu'offrait la Béringie pour atteindre le sol américain. Celle-ci formait, des dizaines de milliers d'années avant notre ère, un couloir terrestre reliant la Sibérie et l'Alaska, actuel détroit de Béring. Le bébé, daté de moins 11 500 ans, appartenait à une population pré-amérindienne baptisée Anciens Béringiens. Enfin, ils ont établi que ces derniers et les ancêtres des Amérindiens actuels sont issus d'une population qui a quitté l'Asie du Nord-Est il y a 36 000 ans. Voilà, les deux lignées se sont séparées vers moins 20 000 ans, puis les Béringers ont disparu.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà.
Étonnant. Du côté de Marie maintenant.
Est-ce que vous connaissez le SSSEDV?
Non, mais on est bien curieux de savoir c'est quoi.
Alors, c'est le service suprarégional de soutien et d'expertise en déficience visuelle qui a pour mission d'accompagner les intervenants scolaires qui œuvrent auprès des élèves qui présentent une problématique visuelle. Leur équipe est formée de personnes ressources et de professionnels en braille. Ils desservent l'ensemble des régions de l'Est du Québec. Leur équipe dynamique propose des interventions pédagogiques efficaces dans le but d'assurer le développement du plein potentiel des élèves. On parle des jeunes de 4 à 21 ans et ainsi favoriser leur réussite éducative. Et sur leur site, il y a une section pour les parents qui est intéressante. Mmh. Alors, je vous incite à aller voir SSSEDV pour trouver cette ressource.
Je serais curieux de voir en braille qu'est-ce que ça donne, ce sigle-là.
Oui.
Ça doit être assez impressionnant. Moi, je vous parle d'un autre mythe en éducation physique. Est-ce qu'il faut souffrir pour être beau? S'il est normal de ressentir quelques raideurs après un entraînement, cela ne l'est pas durant votre exercice. La douleur n'est pas un indicateur de l'efficacité de votre activité physique. Au contraire, c'est le signe que vous la pratiquez mal ou que vous souffrez d'une blessure. Il est alors préférable de s'arrêter le temps que la douleur se dissipe. Il nous reste 45 secondes. Marie, est-ce que tu as un mot d'enfant?
Selon Florent, 7 ans et demi, un baromètre, c'est un appareil qui sert à être accroché sur le mur du salon des vieilles personnes.
Je pense que je vais aller décrocher le mien. Enfin, y a-tu une toute petite rapide?
Pourquoi tire-t-on le diable par la queue? Quand on dit qu'une personne tire le diable par la queue, on veut dire que cette personne est très pauvre et qu'elle peut difficilement subvenir à ses propres besoins. Alors, le jour, c'est une légende, le diable n'était pas de bonne humeur cette journée-là et il a décidé de tourner le dos à son interlocuteur. Le pauvre homme a dû tirer le diable pour attirer son attention.
Alors,